Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une certaine idée de l'Europe. Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons du nouveau président de l'Assemblée parlementaire et d'une résolution de cette même Assemblée pour les organisations de football. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous parlerons de deux décisions de la CJUE, du parquet européen et d'un rapport d'Europol, entre autres. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, le vendredi 28 janvier 2022, Joe Biden, président des États-Unis, a annoncé l'envoi prochain d'un nombre limité de soldats en Europe de l'Est. Il a cependant précisé qu'il n'était pas fermé à un règlement diplomatique autour des tensions liées à l'Ukraine. Boris Johnson s'est dit déterminé à accélérer les efforts diplomatiques et à renforcer la dissuasion pour éviter une effusion de sang en Europe. Suite à une réunion entre Macron et Poutine, les deux présidents ont déclaré leur volonté qu'il y ait une désescalade des tensions. L'UE tente tant bien que mal de faire peser sa voix dans ces négociations. Il faudra rester attentif à l'évolution de la situation. Ensuite, Bruxelles avait proposé en octobre 2021 un projet de directive visant à améliorer le sort des travailleurs les moins bien rémunérés. Ce texte est actuellement examiné par le Parlement européen et est l'une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui tente de faire adopter le texte avant l'été. Au sein de l'UE, il existe de grandes disparités, comme nous en avons déjà parlé dans d'autres épisodes, mais cela est encore plus flagrant au vu des derniers chiffres publiés par Eurostat. En effet, au 1er janvier 2022, parmi les 21 pays de l'UE qui disposent d'un salaire minimum sur 27, 13 sont sous le seuil de 1 000 euros mensuels avant impôts et contributions sociales. Ainsi, les salaires les plus faibles sont en Bulgarie avec 332 euros par mois, en Lettonie avec 500 euros par mois et en Roumanie avec 515 euros par mois. Ces salaires sont déjà bas sans compter les impôts et les contributions sociales. Seuls 6 pays disposent d'un salaire minimum supérieur à 1 500 euros, avec le Luxembourg en tête avec 2 257 euros mensuels, soit 7 fois plus qu'en Bulgarie, suivi par l'Irlande avec un salaire minimum de 1 775 euros mensuels. La France fait d'ailleurs partie de ces pays avec un salaire minimum de 1 603 euros. Le but du projet de directive de l'UE vise à augmenter les salaires minimums là où ils existent, sans les uniformiser, et n'obligera pas les pays de l'UE qui n'ont pas de salaire minimum à en adopter un. Une bonne nouvelle pour une Europe plus sociale. Par ailleurs, le mardi 25 janvier 2022, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE ont adopté une nouvelle recommandation qui est un acte juridique non contraignant, pour mieux coordonner les règles applicables aux déplacements au sein de l'UE, puisque certains États, comme l'Italie, ont conditionné l'accès à son territoire avec un test négatif, quand bien même la personne soit vaccinée. Les États sont donc libres de suivre cette recommandation ou non, mais que les États s'y conforment faciliterait les déplacements au sein de l'UE. D'autre part, la CJUE a annulé l'amende de 1,06 milliard d'euros infligée en mai 2009 à Intel. Le conflit concernait un microprocesseur mis sur le marché qui, à l'époque, détenait 70% des parts de marché en Europe. La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence, avait estimé qu'Intel avait imposé ses équipements à des distributeurs comme Lenovo, Dell ou MediaMarkt, entre autres. D'où la somme conséquente de l'amende. La CJUE estime cependant que quand bien même Intel ait été dans une situation de position dominante, la Commission n'a pas réussi à démontrer que les rabais accordés par Intel ont eu pour effet d'évincer les concurrents. La commission peut encore faire appel de cette décision, ou elle peut reprendre l'affaire menée il y a 15 ans de zéro. À suivre donc. Toujours en ce qui concerne la CJUE, dans un arrêt rendu le jeudi 27 janvier 2022, la CJUE a condamné l'Espagne, car sa législation fiscale ne respectait pas le droit de l'Union européenne, notamment la libre circulation des capitaux. En effet, depuis 2013, les résidents fiscaux espagnols doivent déclarer l'ensemble de leurs biens à l'étranger dont la valeur dépasse les 50 000 euros pour lutter contre la fraude fiscale. Évidemment, ces biens à l'étranger ne sont pas imposables en Espagne, ils le sont déjà dans les pays où est situé le bien. Cependant, la législation prévoit de lourdes sanctions si ces déclarations ne sont pas faites. Ainsi, la CJUE estime que les sanctions mises en place par la législation espagnole sont contraires à la libre circulation des capitaux. Cet arrêt est très critiquable, car la fraude fiscale au sein de l'UE, avec des paradis fiscaux comme l'Irlande, le Luxembourg ou Chypre, fait perdre beaucoup d'argent aux États membres et à l'Union européenne. La CJUE cherche sûrement à éviter de se prononcer politiquement sur une question très sensible au sein de l'UE, d'où sa position sur la protection de la libre circulation des capitaux. Mais cela reste regrettable, car elle aurait pu alerter les institutions européennes en validant la législation espagnole et donc mettre le doigt sur le fait qu'il faut remédier aux paradis fiscaux existants dans l'UE. De plus, Europol a publié cette semaine un rapport sur la crypto-monnaie. En effet, dans ce rapport, elle analyse le développement de l'utilisation de la crypto-monnaie dans la cybercriminalité. Dans le rapport, Europol souligne que la cybercriminalité issue des crypto-monnaies reste très minoritaire comparée à la finance traditionnelle. Cependant, il y a un constat de développement de cette cybercriminalité, notamment de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, de fraude, de services illicites et même de pédopornographie. Il faut donc continuer à regarder cela de près. Toujours concernant Europol, le président du conseil d'administration d'Europol, lors d'une interview sur Europe 1, a indiqué que la menace terroriste est permanente et que le rôle d'Europol est fondamental, car il permet une coopération entre tous les États membres au niveau interne et international, permettant une meilleure efficacité dans la lutte antiterroriste, qui est une lutte transfrontalière, aussi bien en Europe que dans le monde. Par ailleurs, le procureur français du parquet européen, Frédéric Bab, plaide pour une coopération pénale afin de lutter efficacement contre les atteintes graves et transnationales à l'environnement. Il prône donc une lutte contre la criminalité environnementale qui doit, selon lui, être améliorée et mieux protéger l'environnement au niveau européen. Une augmentation des compétences du parquet européen en ce sens avait été mise sur la table par le Parlement européen dans une résolution de mai 2021. Mais encore faut-il que les États acceptent cette possibilité. Ensuite, l'Agence spatiale européenne, ESA, a annoncé mercredi 26 janvier 2022 que le robot européen de la future mission spatiale ExoMars, qui aura pour mission de forer les sols martiens, est prêt pour un décollage en septembre 2022. ExoMars, programme russo-européen, était initialement prévu en 2020 et a dû être reporté en 2022, d'une part à cause de la pandémie, mais aussi d'autre part à cause de problèmes techniques. Les derniers tests de parachute qui ont eu lieu fin 2021 ont donné de très bons résultats, ce qui est fondamental pour l'atterrissage sur Mars. Après un examen final en avril, l'atterrisseur, le robot et le rover de la mission ExoMars seront envoyés vers le site de lancement au Kazakhstan. Le robot est notamment conçu pour forer le sol martien jusqu'à 2 mètres et potentiellement trouver de matières organiques conservées depuis 4 milliards d'années, une époque où Mars ressemblait davantage à la Terre. Enfin, dans un communiqué publié le 27 janvier, la Commission européenne et le réseau d'autorités nationales de la protection des consommateurs ont exigé que WhatsApp fournisse des réponses sur son changement de conditions d'utilisateur d'ici fin février. En effet, début 2021, la messagerie décidait de changer ses conditions d'utilisation et d'instaurer une nouvelle politique de confidentialité, suscitant l'indignation générale. Les grands moyens mis en œuvre pour convaincre les usagers européens récalcitrants, à grand renfort d'alerte, de messages in-app, pour inciter à cocher « j'accepte », ont marqué les esprits. Cette décision est la suite directe de la plainte contre WhatsApp en juillet 2021 du Bureau européen des unions de consommateurs, un rassemblement de 46 associations européennes de droits des consommateurs, dont UFC Que Choisir pour la France. La société de Meta, anciennement Facebook, devra prouver à la Commission qu'elle a informé clairement les consommateurs sur ces nouvelles conditions, leurs conséquences, montrer l'équité des notifications utilisées pour inciter les utilisateurs à accepter sa nouvelle politique et s'ils ont eu la possibilité de se familiariser avec les changements induits. Il reste donc à attendre la réponse de WhatsApp en février sur cette demande. Passons à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a réclamé mercredi 26 janvier 2022 que le respect de certaines normes fondamentales devienne une condition préalable à la désignation des pays hôtes des compétitions internationales de football, dénonçant les milliers d'accidents du travail observés au Qatar dans la préparation de la Coupe du Monde 2022. Dans une série de résolutions, l'Assemblée appelle la FIFA et l'UEFA à revoir les conditions que les pays candidats à l'organisation de grands événements de football doivent respecter et de prévoir des critères minimaux prédéterminés concernant notamment les droits des travailleurs, l'égalité entre les femmes et les hommes ou la protection des athlètes mineurs. Ainsi, le respect des normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail devrait être une condition préalable et non un objectif à atteindre après avoir été désigné comme pays hôte de la Coupe du Monde, exige l'Assemblée parlementaire au regard des milliers d'accidents du travail, y compris mortels, observés au Qatar depuis que le pays a été désigné pour organiser la Coupe du Monde de football de 2022. Une manière plus efficace et contraignante pour les pays de respecter les droits fondamentaux en Europe, mais aussi dans le reste du monde, si jamais cela était mis en œuvre. Toujours sur l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le socialiste néerlandais Tiny Cox a été élu lundi 24 janvier comme nouveau président de l'Assemblée parlementaire. Il est élu pour un an par 164 voix, alors que l'autre candidate, l'Ukrainienne Maria Mezentseva, a elle obtenu 80 voix. Tiny Cox a déclaré vouloir donner priorité absolue à la mise en œuvre plus efficace de la CESDH dans les 47 États parties, mais aussi mettre l'accent sur la protection des droits sociaux et économiques tout en œuvrant pour éliminer les discriminations et développer le droit à un environnement sûr, sain et durable. L'Assemblée parlementaire est un organe de discussion rassemblant des délégations parlementaires des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Il y a 4 sessions plénières par an à Strasbourg où elle va émettre des recommandations ou des demandes de compte au gouvernement en matière de droits humains. L'Assemblée parlementaire élit aussi les juges de la CEDH proposés par les États, mais elle élit aussi le secrétaire général du Conseil de l'Europe et le commissaire aux droits de l'homme de l'organisation. Il faudra suivre attentivement Tiny Cox pour voir s'il fait avancer ses propositions. Enfin, dans l'arrêt Negovanovic et autres contre Serbie, rendu le 25 janvier 2022, la CEDH a dû se prononcer sur un refus discriminatoire de récompenser des joueurs d'échecs non-voyants pour leurs mérites sportifs. Dans cet arrêt, la CEDH dit, à la majorité de 5 voix contre 2, qu'il y a eu violation de l'article 1 du protocole numéro 12 sur l'interdiction générale de la discrimination à la CESDH. L'affaire portait sur une allégation de discrimination à l'égard de joueurs d'échecs non-voyants, ressortissants serbes vainqueurs d'importants tournois internationaux, dont l'Olympiade d'échecs des aveugles. Contrairement aux autres athlètes serbes porteurs de handicap et autres joueurs d'échecs voyants ayant obtenu des résultats sportifs identiques ou similaires, les requérants s'étaient vus refuser certains avantages financiers et récompenses pour leur performance ainsi qu'une reconnaissance formelle par la délivrance d'un diplôme, refus dont ils allèguent qu'il avait eu des répercussions négatives sur leur réputation. La Cour juge que, s'il était légitime pour les autorités serbes de mettre l'accent dans leur système de récompense sur les meilleures performances sportives et les compétitions les plus importantes, traiter différemment les requérants du fait de leur handicap n'avait aucune justification objective et raisonnable. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informés sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.